Bonjour John Swain.
Bonjour, répète-moi.
Et bonjour à votre voix française qui va vous accompagner et nous accompagner jusqu'à 9h, Robert Wolfenstein. John Swain, vous êtes ancien correspondant de guerre, vous avez fait une grande partie de votre carrière de grand reporter au Sunday Times et vous êtes l'auteur de River of Time, mémoire de la guerre du Vietnam et du Cambodge, ouvrage publié ces temps-ci aux éditions des Équateurs, pour la première fois en traduction française, alors même que votre livre est vieux déjà, vous me pardonnerez ce mot, de près d'un quart de siècle. Par cette traduction tardive, votre témoignage nous parvient dans une temporalité étrange qui donne l'impression de voir ressurgir quelques fantômes du passé. On ne s'attendait pas, à vrai dire, en cet été 2019, à voir paraître un texte nostalgique de l'Indochine française. Et pourtant, c'est ce qu'il est. C'est manifestement ce que vous étiez, John Swain. Vous l'êtes resté?
I've never really left Indochina.
C'est moi, j'ai jamais vraiment quitté l'Indochine.
Ça fait
bientôt 50 ans que je l'ai quitté physiquement. Disons que son idée, son esprit et beaucoup de gens me sont restés proches, même si j'ai beaucoup voyagé depuis. Il y a eu beaucoup de conflits, mais je me souviens surtout du Cambodge et du Vietnam. C'est là que j'ai commencé quand j'avais une vingtaine d'années. C'était une période assez extraordinaire. Et j'avais toujours voulu aller là-bas, en tant que journaliste, bien sûr. C'était après tout l'événement du siècle. Moi, j'avais grandi en Inde quand j'étais enfant, donc j'étais un peu attaché déjà à l'Asie. En tant que sujet britannique, je voulais un peu me jeter dans le grand bain et voir la guerre en face.
Vous faites revivre d'ailleurs John Swain dans ce livre River of Time, le petit enfant que vous étiez alors dans l'Inde fraîchement décolonisé, à qui on lisait du Rudyard Kipling le soir pour qu'il s'endorme. Votre vie d'aventure a commencé en rêve avec Kipling?
Yes, it did. I was brought up in West Bengal.
Mais oui, tout à fait, parce que j'ai grandi dans le West Bengal, à 90 kilomètres environ de Calcutta. Alors, j'ai pas été scolarisé là-bas, mais effectivement, ma maman me lisait Rudyard Kipling le soir, les histoires comme ça, les Just So Stories. J'ai été, disons, éduqué dans ce style. Et puis, avant mon sixième anniversaire, j'ai été envoyé au pensionnat. C'est un truc très britannique à l'époque. Mais je me suis toujours senti un petit peu à part, un peu séparé de tout ce monde-là. Moi, j'ai toujours voulu me retrouver dans un endroit comme l'Inde, justement.
On retrouve aussi Graham Greene dans ce livre, River of Time. On le croise presque au détour d'une ruelle ou dans une fumerie d'opium, quelque part à Phnom Penh. Vous citez Jean Lartégui, prié Albert Londres en 1955. Vos figures tutélaires en matière de journalisme, John Swain, ont un peu aussi le statut de frère d'armes.
Well, exactly. I do remember when I was at school.
Mais oui, tout à fait. Moi, je me rappelle, j'étais encore à l'école, c'était en 1964. C'était donc la 20e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu. Je me rappelle un article dans la presse anglaise qui parlait de cette bataille et ça m'avait profondément affecté. Et je crois que c'était, j'essaie de me rappeler le nom, je me rappelle plus le nom de l'auteur de l'article, mais toujours est-il que c'était une histoire tout à fait extraordinaire de courage face à l'adversité dans des circonstances absolument extraordinaires. Et après cela, à travers mes lectures, j'ai été fasciné par ce qui est advenu de l'Indochine française.
En Indochine, les forces franco-vietnamiennes ont pris une nouvelle fois l'offensive. Voici les images du coup d'audace de Dien Bien Phu, au cours duquel des milliers de parachutistes ont été largués au cœur même du dispositif Viet Minh en pays Thaï. La lutte pour la possession de la cuvette fut à la fois rapide et violente. L'ennemi dut promptement se replier sur les collines environnantes.
Là, on est en 53, juste avant la chute de Dien Bien Phu. John Swain, on vous voit sourire à l'évocation de cette grande histoire, même si ça s'est mal terminé à Dien Bien Phu pour l'armée française. Vous avez toujours été fasciné par ces histoires de bataille très jeune. Vous vous êtes engagé à la Légion étrangère, d'ailleurs, et vous avez été nourri à la popote de la Légion, de toutes ces histoires d'héroïsme, de la Légion et d'autres militaires évidemment dans l'Indochine française.
No, that's absolutely true.
Tout à fait. J'avais un besoin pressant, disons, de joindre la Légion étrangère. Il y a un bouquin en anglais qui s'appelle Beau geste de P.C. Rem. Et c'est des gamins de mon âge ont grandi avec ce bouquin. C'est l'histoire d'un gentleman anglais qui rejoint la Légion étrangère et arpente l'Afrique du Nord. Toujours est-il que donc cette histoire l'avait présente à l'esprit, beau geste, et si on demande à un légionnaire pourquoi tu as fait la Légion, il vous répondra c'est pour oublier. Mais quand on lui demande qu'est-ce que tu essaies d'oublier, il dit j'ai oublié ce que je voulais oublier. Et donc j'ai rejoint la Légion étrangère pour une raison de chagrin d'amour.
Ouais. Alors vous avez aussi voulu partir en Indochine parce que ce qu'on racontait à la popote, c'était aussi des histoires de belles femmes. Les femmes sont omniprésentes également dans ce livre River of Time, John Swain. L'aventure, c'était la guerre et l'amour.
Yes, I think that's a fair description. It's a very
oui, c'est assez juste. Et j'étais un très jeune homme quand même à l'époque, il faut se le rappeler. Ce qui se passe avec le Vietnam, le Cambodge, enfin quand moi je suis arrivé là-bas à l'âge de 22 ans, venant d'Europe, disons qu'on avait l'impression de couvrir une guerre, mais de se servir de toutes les influences qu'on avait pu avoir, enfin moi que j'avais pu avoir en Europe, mais en se débarrassant de ces influences, en prenant ses propres responsabilités, je devenais responsable de moi-même. J'étais libre de mes mouvements. C'est un des endroits les plus exotiques du monde, mais qui malheureusement était déchiré par la guerre. Mais ça n'a rien enlevé, si vous voulez, à la beauté du lieu, à la sensualité du lieu. Il y régnait une atmosphère absolument extraordinaire.
Ouais, cette atmosphère et ces coins paradisiaques ont été évidemment très perturbés et changés à jamais par la guerre. Quand l'AFP vous envoie à Phnom Penh, John Swain, vous avez 22 ans et Norodom Sihanouk est destitué par le Nol, on est en 70. Et alors commence 10 années d'horreur pour le Cambodge. Ce livre, River of Time, c'est vraiment à hauteur d'homme un récit initiatique, comme vous venez de le dire, et également une plongée dans l'horreur et dans la guerre du Vietnam et du Cambodge.
Yes, the very beginning of the war when I arrived.
En effet, au tout début de la guerre, quand je suis arrivé là-bas, Phnom Penh semblait, disons, épargné par la guerre, et on se disait naïvement que, ma foi, il y aurait une magnifique nouvelle expérience pour ce pays. Puis les gens, les soldats partaient à la guerre dans des camions et de Coca-Cola bariolés de toutes les couleurs, ou dans des autocars. Enfin bon, et puis très rapidement, le Cambodge est désintégré. Phnom Penh s'est retrouvé assiégé et arrivé à la fin de la guerre. Enfin, c'était une ville qui avait compté 600 000 habitants. Il s'est retrouvé avec plus de 2 millions de réfugiés et les magnifiques boulevards de la ville étaient recouverts de gens qui dormaient sur le trottoir.
Restaurants were barricaded.
Bien entendu, les restaurants étaient barricadés ou fermés, mais il régnait quand même une atmosphère assez étrange. Ils se disaient que d'une manière ou d'une autre, ils s'en sortiraient. Il y avait un courage également exceptionnel de la part des Cambodgiens.
Alors cette traduction tardive aujourd'hui vous oblige aussi, vous, John Swain, et vous confronte à vos écrits finalement d'il y a 25 ans, sur vos actions d'il y a 40 ans. Comment l'homme septuagénaire que vous êtes devenu voit le jeune intrépide va-t-en-guerre que vous étiez alors, puisque vous espériez à ce moment-là, quand vous êtes arrivé à Phnom Penh, que les Américains ne se retirent pas trop tôt du Vietnam du Sud pour pouvoir profiter de la guerre suffisamment longtemps. Comment est-ce que vous jugez aujourd'hui, 25 ans plus tard?
Well, I understand it. I mean, it's a long time ago.
Disons que je comprends ce que j'étais à l'époque, c'était il y a longtemps. Mais pour le jeune homme que j'étais à l'époque, ce désir d'abord d'être journaliste, mais également d'écrire le mieux possible sur ce que je voyais, moi je voulais, disons, me mettre à l'épreuve, aux limites de la mort. Et je voulais pas littéralement aller au combat, mais je voulais pouvoir en parler, en tout cas l'écrire, le décrire le mieux possible, rendre compte de ce que je voyais, des gens qui souffraient quand même, et garder, si vous voulez, l'œil, l'esprit ouvert. Et dans tout cela, dans la tourmente, il y avait quand même l'aventure. On passait d'un moment d'excitation à un moment où on se rendait compte de l'horreur de la guerre, sous tous ces aspects que j'avais dû rencontrer.
Est-ce que vous écririez aujourd'hui, John Swain, que les Cambodgiens ont la violence dans leur ADN, comme vous l'écrivez dans ce livre ?
Vous savez, je crois que c'est quand même encore le cas. Je vais vous dire, moi j'étais au Cambodge il y a seulement 18 mois. Un Cambodgien pour lequel j'ai le plus grand respect me disait, nous autres Cambodgiens, nous sommes fascinés par le sang. Dixit. Et l'épouvantable hymne des Khmers Rouges qu'ils chantaient tous les matins parlait des rivières de sang qui inondaient les rizières. Norodom Sihanouk, l'ex-roi du Cambodge, comme ses ancêtres au XIXe siècle d'ailleurs, avait dit à des officiers français que nous autres Cambodgiens, n'oubliez pas que nous sommes comme des buffles d'eau, c'est-à-dire que nous sommes très pacifiques dans la rizière, mais si vous nous provoquez, nous devenons très violents. Et je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui.
Et vous, John Swain, vous qui avez couvert tant de conflits en tant que grand reporter, est-ce que vous êtes toujours fasciné par la guerre ? Parce que vous parliez tout à l'heure d'un désir d'être journaliste, de se mettre à l'épreuve. Vous êtes devenu journaliste un peu comme vous seriez devenu commando. C'est ce dont on a l'impression en lisant votre livre.
Yes, I suppose so. It's somehow...
Oui, peut-être. Disons que je me suis dit, à l'époque, c'était sans doute ce que je pouvais faire de mieux. Je voulais voir le monde. Je ne voulais pas être un journaliste vissé à son bureau. Enfin, je pense que la plupart des journalistes veulent voir le monde, veulent voyager. C'était mon sentiment, c'était ce qui me poussait, c'était cette excitation. Mais en même temps, il était quand même important de se rappeler le statut privilégié d'un journaliste. On voit les choses les plus abominables qu'il soit. Et ce qui nous permet d'écrire un bel article, c'est finalement les choses les plus épouvantables qui puissent arriver dans la vie de quelqu'un. Et puis, on est privilégié aussi parce que, d'un journaliste occidental, on est dépêché dans un pays dont on peut partir quand on veut, où on peut aller quand on veut, alors que ceux qui sont coincés sur place, ils sont là-bas.
Mais quel type de journaliste étiez-vous, John Swain ? Parce que même sur le terrain, même au cœur de la violence, au cœur de la guerre, au cœur de l'action, vous ne pouviez pas rester en place. Vous êtes parfois sorti de votre rôle de journaliste pour intervenir. On sait que c'est une frontière dans le métier qu'on n'ose pas souvent franchir. Vous la franchissiez pour tenter de sauver des vies, par exemple, ou alors pour tomber amoureux.
Not at the same time, I
pas en même temps,
Yes, it's true.
Alors oui, c'est vrai. Cette ligne, je l'ai franchie, notamment à Phnom Penh, je me souviens d'un incident.
Je
me suis retrouvé dans un bâtiment en face duquel il y avait eu une explosion. C'était dans un cinéma en face d'où j'étais. Un imbécile avait, peut-être un soldat révolté, avait balancé une grenade dans la foule. Alors, je me suis précipité. Il y avait un carnage épouvantable dans la salle parce que, évidemment, la grenade avait explosé dans le cinéma. Il y a des tas de gens blessés. Il y avait une fille qui avait été blessée à la tête. J'avais essayé de l'amener à l'hôpital. À cause de ça, j'ai pas pu écrire mon article à temps, dans les délais pour l'agence France Presse. D'ailleurs, j'ai été réprimandé par mon employeur. Une roquette nous balance parce que j'étais en retard quand j'ai livré mon article. Enfin, ils ont fini par comprendre et puis m'a terminé la lettre en disant courage.
Quel type de journaliste étiez-vous?
N'étant plus journaliste, c'est un peu difficile de le savoir, mais disons que j'étais un journaliste qui aimait voyager, mais surtout amener en quelque sorte ce monde à ses lecteurs, à l'agence France Presse ou au Sunday Times de Londres, ce genre de journaliste ou reporter à l'étranger. Reporter de guerre, c'est peut-être pas... l'étiquette que je me serais donnée, enfin c'est plus courant aujourd'hui, mais enfin j'étais là pour écrire des articles où on porte son lecteur sur les épaules pour qu'il puisse voir de ses yeux ce que vous voyez des vôtres.
Et le journalisme gonzo, vous y reconnaissez dans cette façon de raconter, de se mettre en scène aussi, d'être là vraiment dans le récit? C'est le cas dans votre livre, hein, dans River of Time, John Swain.
Yes, I suppose so. I mean, I know Gonzo journalism.
Oui, dans une certaine mesure, le journalisme Gonzo, c'est un petit peu ça, en effet. D'ailleurs, c'était en train de se créer à l'époque où j'écrivais. Mais mon livre, justement, consiste effectivement à être un petit peu au cœur de l'action. C'est un journaliste, un jeune homme plutôt, qui découvre en quelque sorte la réalité à travers les conflits et son esprit, sa connaissance, sa compréhension du monde évolue à ce moment-là. C'est une espèce d'âge de raison qui lui arrive, passer d'un esprit d'aventure jusqu'à la découverte des véritables horreurs de la guerre qu'il essaie de décrire correctement.
Ouais, alors que l'amour de votre vie, Jacqueline, dont vous parlez longtemps dans ce livre, elle luttait déjà contre les fake news qui évidemment existait déjà à l'époque. Elle dirigeait, cette Jacqueline, un journal alternatif pour contrer les informations parfois erronées, parfois édulcorées, largement édulcorées de l'armée.
Yes, that was in Vietnam.
Oui, et c'était au Vietnam. Jacqueline travaillait pour le Overseas Weekly, qui était, disons, la version alternative au journal officiel qui était vendu au GIs, qui était le Stars and Stripes, qui existe toujours et qui était un journal très politiquement correct sur la façon dont les Américains livraient la guerre au Vietnam. Il y avait d'autres choses, hein, ce journal. Jacqueline parlait des problèmes des GIs, les problèmes de drogue, et il y avait une espèce de mutinerie qui avait lieu dans une unité américaine. Alors évidemment, tout cela était quasiment censuré par la presse officielle militaire, on peut le comprendre, mais les GIs l'adoraient.
Voilà, il fallait cacher l'horreur, parce que l'horreur était là, vous la décrivez aux côtés de la beauté dans votre livre River of Time. Merci beaucoup, un grand merci, John Swain, d'être venu dans les matins d'été de France Culture. Ce livre, River of Time, mémoire de la guerre du Vietnam et du Cambodge en traduction française pour la première fois, est publié aux éditions des Équateurs. Merci également à votre voix française, Robert Wolfenstein. Merci à tous les deux.